Lizzie présente Les Illusions de Jane Robbins, lu par Gaëla Le DVA. À Carole. Automne 2017. Il y a lieu de croire que Félix avait pris une douche. Au-delà de ça, je ne sais pratiquement rien des dernières heures qu'il a passées sur cette terre. Tout ce que j'ai, ce sont quelques bribes éparses d'informations et les impressions incomplètes des témoins. Et c'est comme si j'étais au théâtre et que je ne voyais sur scène que les seconds rôles, le décor et la disposition des ombres. Il manque tous les éléments importants. Il n'y a ni acteurs principaux, ni indications scéniques, ni script. La réceptionniste a dit ceci, que le dernier matin qu'avait connu Félix était froid et vivifiant, qu'il y avait du givre sur la pelouse devant l'hôtel et de la brume au loin, du côté des bois. Elle avait regardé Félix sortir en courant de l'établissement, descendre en trombe l'allée gravillonnée et tourner à gauche après le portail. J'arrivais au travail et je lui ai crié « Bonjour !» a-t-elle raconté. Mais il ne m'a pas répondu. Il a juste continué à courir. 40 minutes plus tard, il était de retour, haletant et suant, la tête baissée pour reprendre son souffle. Il s'était redressé et, remarquant cette fois la réceptionniste, lui avait dit avoir couru jusqu'au terrain de golf pour en faire le tour et revenir par le chemin qui traversait les bois. Il avait trouvé magique la lumière du soleil perçant entre les arbres. C'était, avait-il dit, comme si la vie venait de commencer. Quelle remarque extraordinaire dans le contexte. Puis, il avait pris l'escalier pour regagner sa chambre, montant les marches 4 à 4. Il n'était pas redescendu manger et n'avait pas non plus demandé qu'on lui apporte quoi que ce soit dans sa chambre. Pas même le petit déjeuner continental inclus dans le prix de la nuit. Son collègue, Giulio, a avoué avoir été surpris de ne pas voir Félix à la première partie de la conférence. À la pause du matin, il était allé lui porter une tasse de café et un biscuit dans sa chambre, mais avait trouvé le panneau « Ne pas déranger » accroché à la poignée de sa porte. Il avait supposé que Félix ne se sentait pas bien, qu'il était peut-être en train de dormir, et il avait donc bu le café et mangé le biscuit lui-même. Il n'est pas descendu déjeuner, et il n'était pas là non plus à la séance de l'après-midi. À 15h, je l'avais déjà appelé plusieurs fois sur son portable, mais je tombais toujours sur son répondeur. Giulio avait commencé à s'inquiéter. Cela ressemblait si peu à Félix de manquer pareillement de sérieux qu'il était monté une dernière fois tambouriner à sa porte, puis avait fait venir le gérant de l'hôtel qui était arrivé avec une clé. Les deux hommes avaient été frappés par le calme surnaturel de la pièce, son atmosphère d'irréalité. On avait l'impression, avait déclaré Giulio, que quelqu'un avait réfléchi à la composition de la scène. C'était comme un tableau vivant avec Félix en pièce maîtresse, allongé sur le lit, sur le dos, dans une pose étrangement gracieuse, tel un danseur de ballet, le bras droit jeté en travers de la couette, la jambe gauche repliée, le peignoir ouvert comme une cape, ses yeux gris fixés au plafond. Son bras gauche pendait au bord du lit, les doigts à quelques centimètres du sol, et le gérant, qui avait un diplôme d'histoire de l'art, avait pensé en le voyant à ce tableau pré-raphaélite représentant le suicide de Thomas Chatterton. Sauf que cela ne ressemblait pas à un suicide. Il n'y avait ni flacon de comprimé, ni lame de rasoir, ni le moindre autre indice. Le docteur Patel était arrivé et la réceptionniste était restée sur le seuil pendant qu'elle procédait à son examen. Son avis de professionnel était que Félix avait fait une crise cardiaque ou une attaque quelconque après son jogging matinal. Elle était repartie et la réceptionniste avait pris des photos de Félix et de la chambre. De la table de chevet, de la salle de bain immaculée, de la porte ouverte de la douche, de la vue depuis la fenêtre et enfin du plateau de courtoisie intact. « Je sais que c'était bizarre de ma part », a-t-elle admis. « Mais j'avais le sentiment que c'était la chose à faire, garder une trace. » Peut-être pensait-elle que ces clichés se révéleraient importants, qu'ils indiqueraient que quelque chose clochait dans la scène. Personne d'autre n'avait eu cette impression, cependant. Lorsque les résultats de l'autopsie étaient tombés, ils avaient corroboré l'hypothèse du docteur Patel. La mort de Félix était due à une maladie de cœur. Aussi simplement que ça, il s'était écroulé, sans vie. Et pendant un temps, il avait semblé s'être tout bonnement volatilisé. Le monde, tel une marée montante, l'avait englouti. Mais ensuite, l'enterrement a eu lieu. Ce jour-là, j'ai quitté Londres pour gagner un joli village du Berkshire où une église romane se dressait au milieu des tombes et des feuilles cuivrées balayées par le vent. En la voyant, je me suis dit que Félix, qui était né et avait grandi en Amérique, connaissait une fin très anglaise. Même si les gens qui arrivaient en petits groupes, pleins de gravité pour pleurer sa disparition, faisaient partie de sa vie internationale. Homme solide en costume soigneusement taillé, femme frêle et élégante montée sur talons, je les ai observés de loin. En fait, d'un banc cassé adossé au mur de l'enclos paroissial, où j'essayais de reprendre mon calme. Au bout d'un moment, j'ai fini par me glisser à l'intérieur de l'église, restant au fond. Ma sœur, Tilda, était la vedette, et elle a lentement remonté l'allée centrale comme une mariée mélancolique. J'ai fait un effort, un énorme effort, pour tenter de me mettre à sa place à cet instant, et j'ai imaginé une spectaculaire palette d'émotions. Du chagrin immense dû à la perte de l'être aimé, au soulagement grisant de la délivrance. Mais aucune ne sonnait juste. Comme toujours, je n'arrivais pas à la cerner. Et j'en étais réduite à remarquer ses vêtements luxueux. La robe en soie noire, la veste faite sur mesure qui avait probablement coûté 1000 livres, voire plus. Et je l'ai regardée prendre place sur le banc de devant, inoccupée. À sa droite, devant l'autel, se trouvait le cercueil de Félix, sous une cascade de lys blanc. Et à sa gauche, sur un chevalet en bois, une gigantesque photo de son visage souriant. Quelques minutes plus tard, le père et la mère de Félix se sont assis discrètement à côté d'elle, puis son frère Lucas. Il y a eu le plus imperceptible des signes de tête à l'adresse de ma sœur, qui se tenait parfaitement immobile, les yeux fixés par terre. Le premier cantique a été une interprétation aigrelette de « Le Seigneur est mon berger », mais j'ai découvert que j'étais incapable de chanter. À la place, je me suis laissée aller contre le mur du fond, étourdie et nauséeuse, retournée par toute l'affaire. Non que je pleure la disparition de Félix, même si la vue de sa famille en deuil, accablée de chagrin, était bouleversante. C'était surtout que j'étais malade d'en savoir trop. Le jour de sa mort, j'avais attendu que la police fasse irruption devant mon appartement ou à la librairie. Pareil le matin de l'autopsie. Et là, à l'enterrement, il me semblait certain qu'il y avait des policiers en train de m'attendre devant l'église, tapant des pieds pour se réchauffer et profitant de l'occasion pour fumer une cigarette en douce. Et que, dès que je quitterai la pénombre de l'édifice pour le soleil automnal, j'entendrai mon nom. Cali Faro, vous avez une minute?